République Campus.
From the north to the south, to the east and the west.
On vaincra!
Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, lycéen. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Avec l'arrivée de ChatGPT, l'accès et la création de l'information n'a jamais été aussi simple et pour cause. Avec cette intelligence artificielle d'un tout nouveau genre, il n'y a plus besoin d'effectuer des recherches. Il suffit de poser sa question et l'algorithme se charge du reste, tel un serviteur apportant l'information sur un plateau d'argent. Mais quels sont les nouveaux enjeux qu'apporte cette intelligence artificielle? Quelles problématiques pour les étudiants, les enseignants, pour l'éducation et l'enseignement supérieur? Univox, intelligence artificielle et ChatGPT, avec Mathieu Exbraya, vice-président de l'Université d'Orléans autour du numérique, Arnaud Moisard, du Learning Lab de l'Université d'Orléans, Pascal Higelin, professeur à Polytech Orléans, et Emmanuel Syriac, enseignant à l'École supérieure d'art et de design d'Orléans et directeur du programme de recherche Édition Media Design Expanded Publishing, quand les data deviennent forme. Animation de la table ronde, Erwan Cocherie, Radio Campus Orléans. Mais tout d'abord, la parole aux étudiants du campus d'Orléans.
Univox.
Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un outil qui a été créé par l'homme pour faciliter certaines tâches qu'on doit faire dans la vie et dans la société. Je pense que c'est un outil qui est très pratique, mais dont il faut se servir avec parcimonie, je dirais. C'est quelque chose qui aura vite vocation à remplacer l'homme dans beaucoup de domaines.
Je pense que c'est tout simplement un programme fait par l'homme afin de lui faciliter la tâche.
Quelque chose en rapport avec la technologie qui peut aider notre quotidien, par exemple.
Selon moi, l'intelligence artificielle, c'est comme le cerveau d'une machine, d'un robot, en fait. Si ça évolue mal, ça peut être un danger. Mais si ça évolue bien avec ses limites et tout ça, ça peut être intéressant.
Tout peut être un danger, hein, honnêtement, aujourd'hui, pour nos données personnelles.
Je pense qu'il y a aussi ce problème de destruction d'emplois, justement, parce que certains travailleurs en bas des échelles industrielles, par exemple, vont être remplacés par des robots avec des intelligences artificielles. Mais je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose, dans le sens où, ça détruit des emplois à bas niveau, le fait d'entretenir cette intelligence artificielle, de créer des robots pour utiliser ces intelligences artificielles et pour remplacer des humains, va créer d'autres emplois.
Alors, certains métiers, oui, je pense, mais pas forcément dans tout. Par exemple, avec une IA qui s'appelle Midjourney, qui permet de créer des images de manière aléatoire. Mais ces images n'ont pas sont pas faites par l'homme. Du coup, il n'y a pas ce sentiment humain. C'est très neutre comme art. Et je pense qu'il y a certains métiers qui seront impactés, mais pas tous. Je pense qu'il y a toujours une partie humaine derrière.
Univox.
Bonjour ChatGPT, bienvenue dans cette émission spéciale dédiée à l'intelligence artificielle et à ChatGPT. Peux-tu rapidement te présenter et nous dire en quoi ton arrivée va changer les domaines de l'enseignement supérieur?
Bonjour, je suis ChatGPT, un modèle de langage de grande envergure entraîné par OpenAI. Mon objectif est d'aider les gens à communiquer et à résoudre des problèmes en utilisant la langue naturelle. En tant que système de traitement de la langue naturelle, je suis capable de comprendre et de produire du langage humain de manière cohérente et fluide. En ce qui concerne mon impact sur l'enseignement supérieur, je peux aider les étudiants à rechercher des informations pertinentes et à répondre à leurs questions sur différents sujets. Je peux également aider les enseignants à développer des programmes d'enseignement personnalisés en utilisant des techniques d'apprentissage automatique pour analyser les performances des étudiants et leur fournir des commentaires en temps réel.
Et rapidement, peut-être pour commencer, quand avez-vous été confronté à l'IA pour la première fois? Mathieu Exbraillat, pour commencer.
Ça fait assez longtemps, puisque en fait, ça fait une bonne vingtaine d'années que je suis à l'Université d'Orléans maintenant, et c'est mon domaine, j'appartiens à une équipe dont c'est le domaine de recherche. Donc,
Donc depuis bien longtemps.
Voilà.
Emmanuel Syriac pour les SAD.
Depuis 2 ans maintenant, on a commencé à travailler avec ChatGPT sur des projets. Au début, on a fait les différentes versions. Et puis après, avec l'arrivée des IA au niveau de l'image, notamment Dali et Midjourney, les étudiants sont un peu précipités sur ces outils. Nous aussi, on va regarder ce qu'il était, ce que cela faisait exactement. Et à partir de là, oui, je dirais 2 ans véritablement, une utilisation et une réflexion autour de la création sur l'intelligence artificielle.
Et première confrontation à l'IA, c'était quand ?
Il y a maintenant, je dirais, juin 2022. Ouais, exactement.
Donc assez tardivement finalement.
Oui, assez tardivement. Sur un projet spécifique qui était autour d'un jeu vidéo qui s'appelle Doom. Jeu bien connu, sur lequel nous avons travaillé véritablement avec ChatGPT, mais pour alimenter, c'était la version 2 de cette IA. Et c'était relativement plus intéressant, enfin, c'était différent, c'était pas dans une forme dialogique du tout, puisqu'on pouvait alimenter cette IA nous-mêmes. Donc c'était différent, on confrontait des textes théoriques avec les BD autour de Doom, le game design, c'est-à-dire comment le jeu a été construit. Et à partir de là, l'IA établissait effectivement un dialogue, mais à partir de nos données. Et pas dans cet environnement qui paraît quelquefois un peu obscur aux étudiants, des données du web.
Ardon Mazard, première confrontation avec l'intelligence artificielle, c'était quand ?
J'ai du mal à donner une date précise, je dirais qu'il y a peut-être 6 ou 7 ans, quand je suis devenu référent compilatio pour l'établissement, pour l'Université d'Orléans, puisque compilatio détecte le plagiat, et compilatio est elle-même une intelligence artificielle.
Donc c'était à ce moment-là. Et vous, Pascal Higelin, première confrontation avec cette IA, c'était à quel moment ?
C'était à la fin des années 80. En fait, parce que les réseaux de neurones, ça existe depuis bien longtemps, ça a été développé dans les années 60. Et en fait, dans les années 80, on pouvait commencer à les programmer sur son propre ordinateur, mais alors des tout petits réseaux, bien sûr, pas des trillions de paramètres comme ce qu'on voit aujourd'hui. Et l'idée à l'époque, c'était de faire un dispositif de contrôle qui permette d'auto-apprendre et de se perfectionner.
On l'a entendu, les étudiants et les étudiantes de cette université parfois ne savent pas trop comment définir cette intelligence artificielle, ne savent pas trop comment définir ChatGPT, mais pourtant ils ont des craintes par rapport à leurs données personnelles, ils ont des craintes également sur cet avenir. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Quelqu'un souhaite peut-être prendre la parole ? Pascal Higelin ?
Oui, ben je pense que tout le monde va y être confronté de près ou de loin. Ce qui est certain, c'est que nous, en tant qu'enseignants à l'université, il faut qu'on tienne compte de ça, qu'on prépare nos étudiants à leur futur métier, qui seront certainement impactés par l'intelligence artificielle. Il faut aussi qu'on l'utilise autant que possible dans nos formations. Voilà. Alors, ce qui est certain, c'est que, au niveau des emplois, eh bien, un certain nombre de métiers vont certainement disparaître. Par exemple, tout ce qui est finalement chat, comme des centres d'appel, etc., seront très très impactés par ça, parce qu'aujourd'hui, on peut faire déjà des robots chat qui répondent facilement à partir d'une base de données, de connaissances sur un sujet. Beaucoup d'autres emplois vont utiliser en fait l'intelligence artificielle comme un outil. Par exemple, quand moi j'étais étudiant, la calculatrice était au tout début. Les enseignants se disaient, si on autorise la calculatrice pendant les cours, eh bien les étudiants, ils ne seront plus calculés. Ils ne sauront plus faire de calcul mental.
Et alors aujourd'hui, vos étudiants, ils savent encore calculer, faire des calculs mentaux ?
Non, enfin pas bien.
Et pas bien ?
Mais ce n'est pas grave, puisque en fait, l'utilisation des outils de calcul, ça leur a permis finalement de démultiplier leurs capacités. Et je pense que ce sera un peu le même effet avec l'intelligence artificielle. Ça va rentrer petit à petit et ça permettra d'aller plus loin. Il y a des choses qui seront perdues, sans doute. Un peu les gens deviendront certainement un peu dépendants de ces outils, mais au global, je pense qu'on peut être gagnant.
Alors, à l'Université d'Orléans, ce sont des questions qui sont déjà au cœur des sujets d'actualité. Hier, Mathieu Exbrayat, vous donniez une conférence à la Maison pour la Science Centre-Val de Loire, une conférence autour de l'intelligence artificielle, justement. Vivre en bonne intelligence avec les IA. Tout au long du mois de mars, il y a eu ici à l'université un groupe de travail, donc le réseau thématique de recherche données, intelligence artificielle, modélisation et simulation, qui a organisé une série d'ateliers autour de chat GPT. Donc c'est des questions qui sont centrales à l'Université d'Orléans. Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus ?
Déjà, le titre de la conférence d'hier était un peu une provocation. Hein.
C'était une provocation.
Oui, oui.
On ne peut pas vivre en bonne intelligence avec...
Disons que la formule sonnait bien, mais quand même l'intelligence artificielle, c'est aussi pas mal de marketing. Alors tant qu'à faire, autant mettre un petit peu moi aussi dans la formule.
Donc l'intelligence artificielle ne serait pas intelligente, ça serait de la poudre aux yeux.
C'est pas de la poudre aux yeux, mais l'intelligence, c'est quelque chose qui est très compliqué à définir. En fait, définir intelligence, on a souvent plutôt des preuves d'intelligence, des comportements intelligents. L'intelligence en tant que telle, c'est multiforme. Donc, on va avoir des machines qui vont avoir des comportements qui nécessiteraient, par exemple, chez l'humain, une certaine forme d'intelligence pour obtenir le même résultat. Ça veut pas dire que la machine fonctionne avec comme pourrait fonctionner l'intelligence d'un animal ou d'un humain. C'est quelque chose d'autre.
Qu'est-ce qu'un comportement intelligent ?
Alors, dans les définitions un petit peu classiques, on va dire que c'est soit un comportement qui suit une certaine rationalité, c'est-à-dire qui applique des règles et qui ne fait pas n'importe quoi, soit également quelque chose qui se comporte comme le ferait un humain.
Un petit mot sur ce groupe de travail qui a organisé, notamment en mars, justement, des ateliers et des groupes de recherche et de travail autour de ChatGPT. Arnaud, peut-être un mot ou Mathieu ?
Alors, malheureusement, je n'ai pas pu y participer à cause de mes autres activités à l'université. De mémoire, il y avait aussi dans ces ateliers différentes... je crois qu'il était abordé aussi le thème de l'explicabilité des intelligences artificielles. Et ça, c'est quelque chose également dont j'ai parlé hier soir, c'est-à-dire un système d'IA va faire des propositions, mais c'est intéressant si on peut essayer de comprendre pourquoi il les fait. Avec des systèmes plus simples que les réseaux de neurones, enfin en tout cas d'une nature différente, on peut le faire. Avec les réseaux de neurones, c'est à peu près impossible. Donc il y a toute une démarche qui est mise en place pour essayer d'interpréter, de trouver des astuces pour comprendre, pour essayer d'interpréter les raisons de la décision.
Alors, réseau de neurones, donc on entre dans l'explication du fonctionnement de ces intelligences artificielles. Alors, réseau de neurones, ça ne veut pas dire qu'on prend un cerveau humain et qu'on branche sur des électrodes.
Non, pas du tout. En fait, c'est le réseau de neurones, c'est un, je sais pas comment on peut appeler ça, un artefact, un modèle qui reprend sommairement le fonctionnement d'un neurone avec des impulsions électriques en entrée et puis éventuellement une impulsion en sortie. Donc en fait, un neurone artificiel, c'est quelque chose qui prend des valeurs numériques en entrée, fait, pour dire les choses simplement, une somme pondérée dessus. Donc en fait, les additionne en leur mettant un poids différent à chaque entrée et produit une sortie.
Est-ce que finalement, cette intelligence artificielle ne nous permettrait pas d'en savoir un peu plus sur le vivant dans sa globalité ?
Sur le fonctionnement d'un cerveau, par exemple, pour le modéliser ou quelque chose
par
comme
exemple,
ça
hein. Où on parlait tout à l'heure qu'il est difficile de définir ce qu'est l'intelligence. Est-ce que ça nous permettrait d'y voir un peu plus clair et de répondre à ce genre de questions fondamentales ?
Bon, je dirais qu'il y a des travaux qui ont été menés un petit peu aux confins de l'intelligence artificielle et de la psychologie pour essayer de faire des modèles de raisonnement, des modèles d'acquisition, des connaissances. Mais c'est une branche particulière. Après, on peut imaginer d'utiliser des outils d'intelligence artificielle pour compulser des documents, des sources d'informations, essayer de proposer des nouveaux modèles.
Quels sont les défis et les enjeux de l'université face à cette IA ? Comment est-ce que l'Université d'Orléans va réagir, va s'adapter ? Il y a déjà des pistes de recherche, des sujets qui sont évoqués, des chemins ?
Au niveau des travaux de recherche, oui, il y a des choses assez actives actuellement. Notamment, j'ai plusieurs collègues qui travaillent notamment avec le BRGM actuellement sur des projets conjoints sur de l'analyse d'informations textuelles ou des informations conjointes texte, images, ce genre de choses-là, par exemple. Donc ça, c'est vraiment dans le domaine des activités de recherche. Après, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, je pense que chacun se l'appropriera un petit peu suivant les besoins de son domaine. dans des domaines comme l'informatique ou dans le traitement du signal, donc le traitement d'image par exemple, il y a des besoins, il y a des outils d'ailleurs qui existent depuis un certain nombre d'années et que donc les étudiants vont manipuler. On parle quand même beaucoup de ChatGPT en ce moment. C'est quand même un outil qu'il faut prendre un peu avec des pincettes, hein, parce que comme on l'expliquait tout à l'heure, c'est un outil qui produit des phrases vraisemblables. Vérifier, enfin, sans doute évoluera-t-il encore, mais on ne peut pas sourcer ces informations. Donc il faut le prendre avec des pincettes. Mais on a un certain nombre d'outils qui permettent effectivement soit de s'appuyer sur des choses qui ressemblent à des moteurs de recherche, ou enfin tout va dépendre du domaine sur lequel on veut l'appliquer.
Alors on parle beaucoup de ChatGPT. Arnaud, je crois que tu as amené avec toi des chiffres.
Oui, alors j'ai un chiffre tout neuf et tout récent. La semaine dernière, donc sur les 7 derniers jours à l'Université d'Orléans précisément, on a comptabilisé 17 400 requêtes sur ChatGPT uniquement. C'est la seule intelligence artificielle que j'ai demandé, sur laquelle j'ai demandé un prisme.
Alors, ChatGPT, donc ce chiffre de 17 500 requêtes, il concerne qui ? Les étudiants, les professeurs ?
Étudiants, personnel et
tout le monde à l'université. Chercheurs.
Là, on ne fait pas de distinction. C'est-à-dire tous ceux qui utilisent le réseau soit filaire, soit Wi-Fi de l'université. Donc ça ne compte pas les connexions en 3G, 4G, 5G, mais en tout cas tous ceux qui utilisent les connexions Internet que propose l'université sont comptabilisés. Et le chiffre est assez incroyable, je trouve.
Alors il y a un organe à l'université d'Orléans qui s'appelle le Learning Lab que tu représentes aujourd'hui. Est-ce que avec tes collègues au Learning Lab, vous avez déjà discuté de cette thématique et vous essayez déjà de réfléchir à comment l'adapter et l'amener aux étudiants pour faciliter l'avantage ? Est-ce que ChatGPT justement va pouvoir permettre d'améliorer l'enseignement ?
Alors, nous avons prévu en effet dans 15 jours d'animer un atelier avec les référents pédagogie numérique, c'est-à-dire c'est des enseignants-chercheurs qui viennent de différents sites et qui représentent chacune des composantes. C'est aussi le rôle du Learning Lab d'animer ce type de réunion pour une meilleure connaissance des outils numériques et de ce qu'on peut en faire sur la pédagogie. En effet, il y a des astuces pour que les enseignants en fassent usage dans leur pédagogie, mais également l'étudiant de son côté. Tout à l'heure, j'ai tenté une requête dans ChatGPT qui est assez intéressante. Je me suis mis dans la peau d'un étudiant qui essaye de perfectionner ses compétences en algèbre. Et comme il est adaptatif, eh bien, il me pose des questions de plus en plus compliquées. Et je trouve que sur cet aspect-là, ChatGPT pourrait, je vais utiliser le conditionnel, accompagner l'étudiant dans certains domaines. Mais je préfère laisser la parole aux enseignants sur cette question-là.
Et Emmanuel Osiriac ?
En termes de pédagogie, sur l'image, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup avec des logiciels, notamment dans l'hybridation des types d'éditions sur lesquels on travaille, qui vont du jeu vidéo à l'imprimé. Sur les jeux vidéo notamment, ce qu'on appelle les éditions vidéoludiques. Là, ça a été utile. C'est utile pour les étudiants pour résoudre des problèmes face à des logiciels. On travaille avec Unity, qui est un logiciel important pour nous, sur lequel des bases de programmation logicielle, on questionne effectivement ChatGPT et il peut apporter des solutions. On gagne un peu de vitesse. Après, il faut que des personnes chez nous, moi non, mais on a des personnes très compétentes, des enseignants très compétents à ce niveau-là, vérifient. Mais il est vrai que là, dans ces domaines-là, véritablement, ça peut être une forme de, ce qu'on appelle, mais le mot est sans doute à interroger, mais une forme de co-création, quelque part, sur, effectivement, une écriture logicielle pour gagner du temps, pour questionner, et les étudiants sont assez friands. Alors après, c'est un accompagnement, hein, pour, bien sûr, avec eux, mais ça a résolu quelques fois, c'est assez surprenant. On a été assez surpris, on avait besoin de boucles, voilà, pour des choses assez précises, et ça nous a véritablement aidés. Après, sur la partie, on va dire, la plus sciences humaines, littérature, réflexion, rédaction de mémoire, l'expérience, on l'a fait avec les étudiants pour pas qu'ils plongent tout de suite dans cela. Donc voilà, avec un ensemble d'étudiants qui étaient intéressés. Et là, on revient un peu à ce que l'on avait dit précédemment, c'est-à-dire si on est sur des notions un peu plus précises, un peu plus poussées dans nos domaines, là, on s'aperçoit que c'est des lieux communs. I wanna feel, 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 I wanna feel
Univox.
Univox, intelligence artificielle et ChatGPT, quels enjeux pour l'éducation et l'enseignement supérieur?
Donc ChatGPT permet de dresser rapidement et grossièrement un portrait d'un sujet qu'il faut après aller détailler.
Voilà, exactement. Mais les étudiants, bien sûr, sont assez fascinés. La personne ne connaissait pas du tout, en une page, trois pages, elle avait ça. Mais après, on parlait tout à l'heure des données sensibles. Et je trouve qu'il y a une chose qu'il faudrait quand même dire. Tout le monde s'est inscrit ici à ChatGPT. Téléphone, adresse web. Eh oui.
On parlera tout à l'heure plus en détail.
C'est aussi un sujet,
dans une troisième partie,
parce que les étudiants ont été sensibles à ça.
Les données personnelles, oui.
Parce qu'on les, moi, je fais exprès. Il y a très longtemps, sur des outils logiciels, je les sensibilisais. C'est-à-dire, je faisais des recherches sur eux, sur Facebook, sur leurs images, sur leurs présentations. Puis j'avais fait un mur d'images de toute ma classe d'étudiants qui était effrayée. Et en maillot de bain, machin, le barbecue, voilà, c'était terrible pour eux. Et là, ça a été, c'est aussi une forme de pédagogie des usages du numérique.
Pédagogie, et vous le disiez, Emmanuel Syriac, enseignant à l'ESSAD, accompagnement des étudiants et des étudiantes sur ces technologies plutôt que de les laisser, vous le disiez, tomber dans justement ChatGPT. C'est quelque chose d'important, cet accompagnement?
C'est essentiel. Ils sont friands de ça.
Il faut travailler avec et pas contre et ne pas fermer la porte.
Il faut travailler avec et comprendre ce que c'est. Après, ChatGPT, c'est vraiment, c'est OpenAI, c'est, faut voir ce que c'est. Hein, c'est ce qu'on disait très bien tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est Elon Musk, c'est l'industrie, c'est 300 millions d'abonnés il y a quelques jours, il va y avoir 500 millions, puis après le milliard. C'est les GAFAM, c'est quelque chose, c'est autre chose. C'est pas ce que les chercheurs, je pense, autour de la table font avec l'histoire du machine learning. Là, on est dans un autre domaine. Là, c'est vraiment un outil grand public d'un seul coup et effectivement qui change beaucoup de choses dans les modes d'appréhension d'un certain savoir.
Pascal Higelin, vous partagez cette vision justement d'accompagnement des étudiants et des étudiantes sur ces technologies?
Oui, parce que en fait, c'est pas un outil, neutre. Enfin, il est tout neuf. Et donc, il faut apprendre à s'en servir. Selon comment on s'en sert et dans quel domaine on s'en sert, c'est quelque chose de très important. Par exemple, avec ChatGPT, on a certains domaines où on peut l'utiliser. Par exemple, dans la réalisation de résumés, de rapports, de fiches de blog. Donc ça, c'est déjà utilisé largement aujourd'hui. La réponse aux questions, donc où ChatGPT peut agir un peu comme un assistant et même réaliser des actions, prendre des rendez-vous, des choses comme ça. Ça peut servir comme système de classification, donc pour ordonner ces données. Un point très important, il peut aussi jouer un rôle. Et c'est là où je pense l'enseignement de ce genre d'outils est très important. Par exemple, si à ChatGPT, vous dites « Bon, maintenant, tu es Victor Hugo, écris-moi un texte sur tel sujet », il va sortir quelque chose qui ressemble à du Victor Hugo. Et donc, il y a tout un domaine qui est en train de s'ouvrir, qui s'appelle le « prompt engineering », qui consiste à apprendre à utiliser l'entrée sur ces outils pour pour leur faire ce que l'on veut réellement. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui, à l'avenir, va prendre un grand essor. Ensuite, il y a tout le domaine de la génération de code. Pour avoir essayé un petit peu, c'est assez surprenant. Alors, pas ChatGPT, mais GPT-4. Est vraiment bon, quoi. Enfin, on lui demande de générer du code, par exemple en Python, et il sera exécutable et il fera ce qu'on lui demande. On peut par exemple lui demander de générer un petit jeu et ça le fait. Donc c'est assez surprenant quand même. Et puis finalement, il y a tout un autre aspect qui peut être couvert par ce genre d'outils, c'est le raisonnement. Et des petits problèmes mathématiques, ou pas si petits, peuvent être résolus si on le conditionne correctement. Donc ça, je dois dire, c'est assez surprenant. Je n'y croyais pas, je l'ai essayé moi-même, et ça fonctionne. En fait, là, on parle de ChatGPT, qui, lui, a été entraîné sur des données disponibles sur le web. Donc ce qu'il reproduit, ce qu'il recrache, c'est simplement tiré de ce qui est disponible. Il faut voir aussi qu'il peut y très bien avoir des intelligences artificielles entraînées sur des jeux de données spécifiques. On parle aujourd'hui beaucoup d'intelligence artificielle médicale. entraîné sur des multitudes de radiographies et qui arrive à diagnostiquer de manière très importante, enfin très favorable, les problèmes médicaux. D'autres applications sont sans doute aussi des applications militaires. On sait que dans le domaine militaire, il y a des intelligences artificielles spécifiques. Donc voilà, il faut. Et je pense que chaque métier dans l'avenir va avoir un genre de des genres d'assistants, des genres d'outils qui vont en fait aider. Mais ce qui est important, c'est que ça ne va jamais remplacer l'être humain. Ce sera un outil comme un autre. Ce qui va faire quand même la spécificité de l'être humain, c'est la responsabilité. Ce que je veux dire, si on prend par exemple des intelligences artificielles médicales, pour le médical, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va prendre la responsabilité de faire une intervention médicale sur un patient. Ce sera un médecin qui, au vu de toutes les données qu'il aura, dont celles de l'intelligence artificielle, va prendre la décision, va prendre la responsabilité.
Cette table ronde a été réalisée par Radio Campus Orléans dans le cadre du festival Ondulation, soutenu par la Région Centre dans le cadre des Human Tech Days. Univox se termine pour cette semaine. Retrouvez toute l'actualité des Radio Campus sur radiocampus.fr. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.